France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour, c'est France Musique. Bienvenue dans nos rendez-vous de l'été qui célèbrent toutes les musiques et leurs artistes. Dans un instant, place à Musique Matin jusqu'à 9h avec Clément Rochefort. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Nous sommes le vendredi 9 juillet 2021. Alors comme tous les jours, je vous accompagne jusqu'à 9h dans la joie et la bonne humeur pour un réveil vitaminé qui sera bien rempli ce matin. Avec à 7h40 la dernière chronique foot et musique de Marina Chiche. À 7h50 dans le jeu de l'été, un disque Mozart et Schubert a gagné, le disque du quatuor Voce. À 8h, le journal de Marie-Hélène Duvigneau. À 8h10, le Tour de France des festivals. Nous prendrons la direction de Saint-Cyr, La Popie, en compagnie de Michel Letiec. À 8h20, reportage de Louis-Valentin Lopez à Aix-en-Provence, auprès des musiciens du London Symphony Orchestra. À 8h25, l'été des frères Jacques, comme tous les jours. Et à 8h30, nous irons au Corégie d'Orange, où nous serons en compagnie du ténor Roberto Alagna, qui incarne Samson dans la nouvelle production de Samson et Dalila, mise en scène par Jean-Louis Grinda, le directeur des Corégies, qui sera également notre invité. Allez, on est vendredi, le week-end approche pour tous ceux qui n'ont pas encore la chance d'être en vacances. Eh bien, nous sommes là, nous, sur France Musique. Pour les autres, vous nous écouterez dans la voiture, puisqu'il paraît que c'est un premier week-end de grand départ. Et personnellement, l'appel du soleil et de l'été me donnerait bien envie d'aller danser. Allez, bon réveil et bienvenue à tous sur France Musique. C'était un des plus grands clarinettistes et chefs d'orchestre de jazz américain avec Benny Goodman. C'était Artie Shaw avec son nom de légume, son surnom de légume plutôt, puisqu'il s'appelait Arthur Jacob Arshofsky Artie Shaw, qui a composé ce concerto pour clarinette enregistré ici par Sharon Kam à la clarinette avec l'Orchestre Symphonique de Londres sous la baguette de Gregor Bull.
C'est l'été sur France Musique.
Merci d'être avec nous sur France Musique ce matin. Il est presque 7h40, c'est l'heure des infos. Et on commence avec des nouvelles du 57e concours de jeunes chefs d'orchestre de Besançon. Les présélections des candidats se sont terminées dimanche à Berlin. Sur les 20 finalistes retenus, 10 nationalités sont représentées. 5 femmes font partie de la sélection, une de plus qu'en 2019, dans une proportion quasi identique aux inscriptions. Les candidats ont 29 ans d'âge moyen, avec des candidats de 20 à 35 ans. Et 6 candidats étaient déjà présents parmi les sélectionnés en 2019. Sur près de 300 inscriptions au total, 176 candidats se sont présentés aux auditions. Cela représente environ 40% d'annulations, principalement dues aux contraintes sanitaires, frontières fermées, quarantaines imposées, cas contact, etc. Les épreuves finales auront lieu dans le cadre du Festival de Besançon du 13 au 18 septembre. Pas la même musique au concours Isaïe, où un jeune candidat, Arseni Strikovski, accordéoniste russe, estime que le jury de la compétition bruxelloise n'a pas pris le temps d'examiner sérieusement sa candidature. Un scandale pour le jeune homme, qui a payé 140 euros pour s'inscrire et qui compte entamer une procédure judiciaire. C'est ce que rapporte Louis-Valentin Lopez sur francemusique.fr. Le candidat qui avait envoyé une vidéo YouTube a constaté, grâce au service statistique du site, que la vidéo n'avait pas été visionnée plus de 22 secondes. Un peu court, certes, pour se faire une idée. Une bonne nouvelle pour le secteur culturel, pas de sur-risque d'infection au Covid-19 pour le concert test d'Indochine. C'est ce que rapporte le quotidien Le Monde. La PHP qui supervisait les niveaux de contamination a trouvé un taux d'infection similaire entre les participants au concert et le groupe de personnes restées chez elles. La présence à un concert n'a pas été associée à un sur-risque de transmission du virus lors d'un concert en configuration debout, sans distanciation physique, chez des personnes masquées avec un test antigénique négatif dans une salle fermée. C'est ce que rapporte précisément l'étude de la PHP. En Allemagne, selon le magazine Diapason, les organisateurs du festival Classic Open Air de Nuremberg se plaignent car le festival est de nouveau annulé cette année. Ils sont même en colère. Ils n'ont pas l'autorisation d'accueillir leurs habituels 8000 spectateurs quand au même moment, les matchs de l'Euro de football accueillent à Munich, à l'Allianz Arena, quelques 14500 supporters. Deux poids, deux mesures, dénoncent les orchestres. Eh bien, puisqu'on parle de foot, c'est justement ce matin la dernière Minute Foot de Marina Chiche en partenariat avec l'équipe consacrée au lien entre le foot et la musique à l'occasion de l'Euro de football. Bonjour Marina.
Et bonjour Clément, bonjour chers auditeurs. L'Euro touche à sa fin ce week-end. Que de matchs de folie avec prolongation, une dramaturgie infernale comme à l'opéra. Mais ce qui nous fait vibrer aussi intensément à chaque fois, c'est le beau jeu, le spectacle de grandes équipes et de grands joueurs virtuoses. Musique comme au foot, une des choses qui fascine, c'est la virtuosité. Quand le geste est transcendé, quand on est bien au-delà de la technique et qu'il y a une aisance telle que cela donne l'illusion de la facilité. Un geste parfait dans son timing, avec un niveau d'intégration physique et mentale ultime. En fait, pour les virtuoses de la musique ou du ballon rond, on est du côté des neurosciences. C'est ce qu'on appelle la proprioception, une capacité du système nerveux à capter les signaux, les stimuli tellement vite et à réagir à la milliseconde, comme guidé par un sixième sens. Un regard, une touche de balle, une série de dribbles et de roulettes à la Zizou sans effort, l'air de rien, des doigts qui s'ajustent sur la touche en temps réel, à toute allure. Vertigineux Yasha Heifetz. une des composantes de la virtuosité, c'est la vélocité. Des accélérations dirigées vers un but. Pendant le match France-Allemagne de 7 euros, Kylian Mbappé a eu un pic de vitesse à 37 km/h. Pour les musiciens, c'est de la prestidigitation, au sens étymologique du terme. Presto, vite, digitation les doigts. Des doigts magiques qui vont vite, des doigts en or. Chez les footballeurs, a priori, il s'agit de pieds en or, même si certains footballeurs dans l'histoire ne se sont pas privés à l'occasion de jouer avec leurs mains. Sans ressortir les vieux dossiers, on se souvient tous des mains de Dieu, mano de Dios, des mains qui sauvent in extremis leurs équipes. Mais attention, en foot comme en musique, des individualités aussi géniales soient-elles, suffisent rarement pour faire une grande équipe. Certes, on mise parfois sur des trios d'attaquants vedettes qui valent plusieurs millions d'euros. C'est vrai que ponctuellement, ça peut produire des étincelles. Dans les années 50, le trio formé par Jascha Heifetz, Arthur Rubinstein et Gregor Piatigorsky était surnommé le Million Dollar Trio. Une dream team, un trio d'attaquants de rêve, sur le papier seulement. Car l'histoire n'est pas celle d'un conte de fées. Leur collaboration fut de courte durée et ils se disputèrent sacrément dans les vestiaires. Entre individualité et collectif, l'équilibre est complexe. Pour former la meilleure équipe, il ne suffit pas de rassembler une pléiade de stars. Encore doivent-ils vouloir mettre leurs talents au service de la partition. C'est vrai sur le terrain, c'est vrai en musique de chambre ou encore à l'orchestre. Les équipes de rêve sont souvent celles où tous attaquent, tous défendent. Des groupes fédérés autour d'un objectif commun, par un coach ou un chef. Comme à Berlin avec les Berliner Philharmoniker par exemple. Une sacrée Mannschaft. Et là, ça produit du beau jeu, tous ensemble. Et on tient la cadence jusqu'au coup de sifflet final. Vous aimez les grands interprètes et les grands orchestres ? Eh bien le foot est fait pour vous. Alors, bonne fin d'Euro. Et on se dit à bientôt, au stade ou en concert ? Chiche !
Dans les bars, les boîtes de nuit, les gens sont tristes et s'ennuient. D'autres vont au cinéma pour s'embêter parmi la foule. On voit qu'ils ne connaissent pas l'âge du ballon qui roule. Loin de nous, les Paris veulent. Nous, on aime le football. Les voilà, les footballeurs. Ils sont joyeux, pleins de jeunesse. Au combat, ils vont sans peur. Parmi les gars et au liqueur. Et viva les footballeurs qui se bagarrent avec adresse. Bon garçon, roulons les cœurs. Voilà, voilà, les footballeurs. Aujourd'hui c'est un beau jour, on arrive des alentours, pour voir un match sans pareil se dérouler dans l'allégresse. Regardez sous le soleil, tous les fervents qui se pressent, acclamant d'une voix folle, les chevaliers du football. Les volants, les footballeurs, qui sont joyeux, pleins de jeunesse. Au combat, ils vont sans peur, parmi les gars et au liqueur. Ils sont là sur le terrain, bondissant avec entrain, suivant la loi du vrai sport, du gardien de but au capitaine. Et dans un dernier effort, qui récompensera leur peine. Les gagnants qui volent vol sont les vrais rois du football. Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux, pleins de jeunesse. Au combat, ils vont sans peur, hardi les gars et au liqueur.
Un petit clin d'œil à Marina Chiche avec cette chanson des Frères Jacques. Évidemment, les Frères Jacques, vous savez que c'est mon dada cet été. Voilà les footballeurs, une chanson de Pierre Forval et Oscar Dauphny pour refermer ce dernier numéro de Chiche, la Minute Foot de Marina Chiche, que vous pouvez retrouver, bien sûr, encore sur francemusique.fr, mais surtout tout l'été, tous les dimanches de l'été, dans Musicienne de Légende, c'est à 16h. Merci d'être avec nous ce matin, il est 7h49. Une petite pastorale, extrait des années de pèlerinage de Franz Liszt. Cet extrait de la première année consacrée à la Suisse, et c'était la pianiste Musa Rubaskite. 7h51, j'espère que vous êtes bien réveillés, bien alertes, parce que c'est l'heure de jouer. A gagné ce matin sur France Musique le disque Mozart Schubert du Quatuor Voce, consacré à ces deux compositeurs, publié à l'occasion des 15 ans du Quatuor Voce en 2019. 15, chiffre emprunt tout autant de fougue que de maturité qui se révèle dans les quatuors numéro 15 de ces deux compositeurs, Mozart et Schubert. Mozart qui compose son quatuor numéro 15 en 1783, c'est le deuxième quatuor du cycle des quatuors dédiés à Haydn. Schubert, quant à lui, compose son quatuor numéro 15, c'est sa dernière œuvre en 1826, dernière œuvre dans le genre. Il l'écrit en seulement 10 jours, mais n'en a jamais vu la création qui s'est tenue 23 ans après sa mort. Alors pour gagner un exemplaire de ce disque, il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre en nous écrivant via l'onglet Contactez-nous sur la page de l'émission Musique Matin sur francemusique.fr. N'oubliez pas de nous indiquer votre adresse complète. Alors voici la question. Schubert était, vous le savez peut-être, le maître du Lied. Auquel de ces cycles de Lieder appartient le Lied Wohin? Vers où? Le voyage d'hiver, la belle meunière ou le chant du cygne? Auquel de ces cycles de Lieder appartient le Lied Wohin? Vers où? Le voyage d'hiver, la belle meunière ou le chant du cygne? C'est à vous de jouer. Vous avez jusqu'à 8h50, heure à laquelle Marion Guillemet tirera au sort le gagnant du jour. Thank you. La musique de Franz Schubert, c'était le scherzo du quatuor numéro 15 en sol majeur, Deutsch 887, interprété par le quatuor Voce. Cet extrait de ce disque Mozart Schubert qui est à gagner ce matin en répondant à la question que je vous ai posée tout à l'heure. À quel cycle de leader appartient Wohin, vers où, le voyage d'hiver, la belle meunière ou le chant du cygne? Vous avez jusqu'à 8h50 pour continuer à participer. Le quatuor Voce qui sera en concert le 20 juillet prochain au Festival européen Jeunes Talents à Paris.
Quel scandale, les samedis et dimanches à 10h sur France Musique. Carmen, Parade de Satie, Péléas et Mélisande, Callas à l'Opéradrome, Mozart, Beethoven, ils ont surpris, choqué, étonné, révolté, scandalisé leur époque. Retour sur les grands scandales de la musique classique par Jérémy Rousseau. Une série à retrouver également en vidéo sur francemusique.fr et ses réseaux sociaux.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui ouvrent les yeux à l'instant. Vous écoutez France Musique, il est 8h. L'heure du journal avec Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Clément, bonjour à tous. On sait qu'il est plus contagieux, 60% de plus. Le variant Delta du coronavirus est-il aussi plus résistant aux vaccins et aux traitements? Oui, si l'on en croit une étude de l'Institut Pasteur menée avec plusieurs hôpitaux français. Véronique Julia.
Principal enseignement de l'étude, le sang des patients ayant eu le Covid au cours des 12 derniers mois ou qui ont été vaccinés avec deux doses de vaccin Pfizer ou AstraZeneca reste neutralisant face au variant Delta. Les anticorps agissent sur ce variant. Ils sont malgré tout 3 à 6 fois moins puissants que face au variant Alpha, le variant anglais. Autrement dit, il faut des concentrations d'anticorps 4 fois plus élevées pour neutraliser le variant Delta par rapport à la souche Alpha. Le vaccin sera donc protecteur chez une personne vaccinée deux doses et qui a dans les premiers temps beaucoup d'anticorps, mais à mesure que le temps passera et que son taux d'anticorps diminuera, le variant Delta pourrait prendre l'avantage, d'où l'intérêt d'une éventuelle troisième dose. L'étude montre d'ailleurs que les personnes vaccinées avec une seule dose, ce qui est le cas encore de beaucoup de monde, et qui ont de ce fait encore peu d'anticorps, sont très peu protégées face au variant Delta. L'étude s'est penchée aussi sur les traitements utilisés pour prévenir les formes graves face au variant. Ils restent pour la plupart efficaces. Un seul des 4 anticorps monoclonaux testés dans cette étude est resté inactif.
Et concernant une éventuelle troisième dose, Pfizer va demander dans les semaines qui viennent l'autorisation de l'injecter aux États-Unis et en Europe notamment. Pour l'instant, les autorités sanitaires américaines estiment que les personnes qui ont été entièrement vaccinées n'en ont pas besoin, même si les cas de Covid augmentent à nouveau aux États-Unis comme en Europe, en Afrique et en Asie. C'est dans ce contexte que la flamme olympique est arrivée ce matin à Tokyo pour une cérémonie sans public, à 2 semaines du coup d'envoi des Jeux dont la majorité des épreuves se dérouleront à huis clos. En France, les discothèques rouvrent ce soir après pratiquement 16 mois de fermeture, des réouvertures très partielles. Le strict protocole sanitaire imposé par le gouvernement a finalement dissuadé la plupart de reprendre leur activité. Pour entrer, Covid oblige, il faudra se munir d'un pass sanitaire, autrement dit une preuve de vaccination complète depuis au moins 14 jours, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou encore une preuve de contamination au Covid entre 6 mois et 15 jours plus tôt. Le masque sera fortement recommandé mais pas obligatoire pour les clients qui devront par ailleurs respecter une jauge de 75% en intérieur. Les ministres des Finances du G20 se réunissent aujourd'hui et demain à Venise, en haut de leur agenda, la réforme de la taxation des multinationales qui ambitionnent de mettre fin aux paradis fiscaux et au dumping fiscal en instaurant un impôt mondial d'au moins 15% sur les bénéfices. Mais si l'accord de principe est donné, tout est loin d'être réglé, Claude Guibal.
D'accord, oui, mais pas tout à fait. Malgré l'assentiment de principe arraché début juillet, la mise en place d'un taux plancher d'imposition sur les sociétés à l'échelle mondiale n'est pas encore totalement acquise. Avec un taux de 15%, on est loin de l'objectif de 21% visé initialement par Joe Biden en avril. Ce qui reste à négocier, c'est entre autres le système de répartition entre pays de cet impôt versé par les multinationales et les exceptions réclamées par certains secteurs d'activité. Pour l'Union européenne, il faudrait adopter une loi au niveau du bloc, puisque les questions fiscales au sein de l'Union ne peuvent se résoudre qu'à l'unanimité. Or, si la France, l'Allemagne et l'Italie sont les porte-étendards de cette réforme fiscale, d'autres pays, à la fiscalité plus compétitive, traînent les pieds. C'est le cas de la Hongrie avec ses 9% ou de l'Irlande avec ses 12,3%. L'Irlande qui a su attirer les géants du numérique avec sa taxation, un outil majeur, estime-t-elle, de sa survie économique.
155 millions de personnes en situation de crise alimentaire, c'est-à-dire exposées à des des difficultés d'accès à la nourriture. Selon un rapport de l'ONG Oxfam, la faim dans le monde s'est terriblement aggravée l'an dernier avec 6 fois plus de personnes qu'en 2019 dans des conditions proches de la famine. En cause, le cocktail explosif des 3C, les conflits, le Covid et le changement climatique. Selon l'ONG, sans action immédiate, il pourrait d'ici la fin de l'année faire mourir de faim 11 personnes par minute. Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan sera achevé le 31 août. C'est ce qu'a indiqué hier soir le président américain Joe Biden en assurant que la prise de contrôle du pays par les talibans n'est pas inévitable. Le temps aujourd'hui plus estival sur la moitié sud, même si un risque d'averse persiste ce matin sur le massif central. Cet après-midi, les éclaircies s'imposeront en plaine. Ce sera plus nuageux en montagne. Et sur la moitié nord, les températures 10 à 14 degrés en général ce matin, 15 à 20 sur les régions méditerranéennes, 20 à 24 cet après-midi du nord-ouest au sud-ouest, 24 à 28 près de la Méditerranée, jusqu'à 30 dans le Var et sur l'est de la Corse. France Musique, 8h05. Et c'est à vous, mon cher Clément.
Mais je vois que la météo, ça va un petit peu mieux, Marie-Hélène Duvigneau. Hein, mais quand même, il ne faut pas trop se découvrir. C'est pour ça que vous avez une jolie marinière aujourd'hui. Hein, vous êtes ambiance bretonne. On vous souhaite un bon week-end, Marie-Hélène. Et puis on vous retrouve lundi à 8h. Et quant à nous, eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Avec à suivre à 8h10, le Tour de France des festivals qui nous entraînera dans le sud-ouest, dans le Lot, à Saint-Cirq-la-Popie. Et puis à 8h20, un reportage de Louis-Valentin Lopez à Aix-en-Provence avec les musiciens de l'Orchestre Symphonique de Londres. À 8h25, l'été des frères Jacques. Et à 8h30, nos deux invités du jour, le ténor Roberto Alagna et le metteur en scène et directeur des Corégies d'Orange, Jean-Louis Grinda. Mais je voudrais d'abord vous faire partager une nouveauté discographique qui est sortie aujourd'hui même. C'est le dernier disque du flûtiste Emmanuel Pahut. Il est sorti chez Warner. Il s'intitule Mozart et Flûte in Paris. Un double album dédié à Mozart et à la flûte à Paris qui présente 9 œuvres pour flûte solo qui ont chacune un lien avec la ville de Paris. Emmanuel Pahut qui retrouve ici ses collègues des Vents Français, le hoboïste François Leleu, qui dirige d'ailleurs sur le disque l'Orchestre de Chambre de Paris, le clarinettiste Paul Meyer, le bassoniste Gilbert Audin, le corniste Radovan Vladkovic, et puis on y retrouve aussi une harpiste belge, Anne-Lyn Lennertz. Les pièces de cet album illustrent différents âges d'or de la flûte, précise Emmanuel Pahut. Les plus anciennes sont 2 œuvres concertantes que Mozart composa lors d'une visite à Paris en 1778. Ce sont des pièces qui font l'objet du 2e CD du coffret. La plus récente est Dreamtime de Philippe Persan, créé en 2014 par Emmanuel Pahut et l'Orchestre de Chambre de Paris. La période intermédiaire est représentée par des pièces de Saint-Saëns, de Fauré, de Chaminade et de Poulenc, dont voici le final de la sonate pour flûte dans sa version orchestrée par Lennox Berkeley. Thank you. Emmanuel Pahut, c'est vraiment toujours, toujours et encore un flûtiste exceptionnel ici dans le final de la sonate pour flûte de Francis Poulenc, orchestré par Lennox Berkeley, avec l'orchestre de chambre de Paris sous la direction de François Leleu. Cet extrait donc de ce tout nouveau disque récital double CD d'Emmanuel Pahut qui vient de paraître chez Warner, Mozart et Flûte in Paris.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Merci d'être avec nous ce matin, tout de suite à 8h10. Il est temps d'enfourcher notre petit vélo en descendant dans le Lot dans le Tour de France des festivals. Et pour parler de ce festival, nous sommes au téléphone avec Michel Letièque. C'est pas n'importe quel festival, c'est un tout nouveau festival. Bonjour Michel.
Bonjour Clément, bonjour.
Alors vous remarquez que volontairement, j'ai contourné le nom du village. Parce que c'est le débat ce matin, ici en studio, par téléphone. Je suis harcelé de messages. Il y a ceux qui disent il faut dire Saint-Cyr et ceux qui disent il faut dire Saint-Cirque. Qu'est-ce qu'on fait, Michel Letièque?
Écoutez, moi qui ne sors pas de Saint-Cyr, mais du Conservatoire de Paris, je dirais Saint-Cirque-la-Popie.
Voilà. Voilà, parce que j'ai d'autres informations qui me disent qu'il faudrait dire Saint-Cyr, ne pas prononcer le Q final. Apparemment, les locaux disent Saint-Cyr. Alors, il faudra vous renseigner, Michel, faire une petite enquête. Voilà. Voilà. Parlez-nous un petit peu de ce village, d'ailleurs. C'est pas n'importe quel village. Paraît-il que c'est le village préféré des Français.
Bah, paraît-il, d'après M. Bern. Et puis, moi, je connaissais pas le village. Je suis allé grâce à des amis, Michel et Edith Tardy, qui habitent là depuis longtemps, et qui avaient envie de mettre de la musique dans ce village qui est merveilleux. C'est un espèce de retour à la nature. Et on est tous complètement excités, parce qu'un nouveau festival, une nouvelle aventure, surtout au sortir de ce confinement, ça demande de la passion, de la volonté, ils en ont beaucoup, les musiciens aussi, donc je pense. Et le soleil est arrivé ce matin, vous pouvez descendre de votre vélo, il fait très beau.
C'est le festival se déroule donc du 9 au 11 juillet, ça commence donc aujourd'hui, 9, 10, 11, 3 jours remplis de concerts. Parlez-nous d'abord un petit peu des lieux des concerts, est-ce qu'on est au cœur de ce village médiéval?
Alors, on sera pour un concert au cœur, mais alors vraiment au cœur du village, à côté du musée André Breton, d'ailleurs, qui est un très beau musée là. Et puis, on va aller dans les églises avoisinantes, dans d'autres lieux, à côté, à Berganti, un autre petit village très, très joli, et à Bouziès. Le lieu est magnifique. Tout l'environnement, Saint-Cyr, c'est en haut, donc ça domine. On sera un petit peu dominé dans les autres concerts, mais on va essayer d'essaimer autour de Saint-Cyr.
C'est à la fois...
Saint-Cyr, pardon.
Voilà, alors on va le dire une fois sur deux, comme ça on est sûr de contenter tout le monde. Ouais. C'est à la fois un village médiéval, à la fois le berceau des surréalistes. Du coup, c'est ce qui vous a peut-être invité à faire un programme très très varié. C'est ce que j'ai remarqué en lisant le programme. Il y a du classique, du jazz, il y en a pour tous les goûts, hein.
Voilà, parce que comme on ne sait pas exactement ce qui va se passer pour le public, c'est la première fois qu'on fait quelque chose. Donc effectivement, j'ai fait un programme très éclectique. Il y en aura du baroque, il y aura du classique, il y aura un peu de jazz, il y aura Perrani avec François Salk, un autre flûtiste. On vient d'entendre Emmanuel, fantastique. Il y aura Patrick Gallois aussi, un autre flûtiste extraordinaire. Donc tout est mélangé. On va pouvoir voir exactement quel public va venir selon les concerts, les heures, les lieux. Et ça nous permettra pour le futur d'affiner un petit peu la programmation, bien sûr.
Il y aura même un orchestre, l'orchestre de chambre de Toulouse, dirigé par Gilles Colliard. Une dernière question, si on vient vous voir à votre festival, est-ce qu'on mange et est-ce qu'on boit de bonnes choses dans le Lot?
Alors attendez, si là on peut se poser la question sur Saint-Cyr ou Saint-Cirque, sur le vin de Cahors et sur ce qu'il y a à manger, alors là la question se pose même pas, là vous aurez un avis unanime, c'est oui, c'est oui.
Bon, écoutez Michel Letièque, on vous souhaite plein de succès avec la première édition donc de ce festival de Saint-Cyr ou de Saint-Cirque. On ira, si on est dans la région, vous rejoindre, c'est promis, ça commence ce soir et c'est jusqu'à dimanche. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Musique.
Je t'en prie.
On va se
Merci
quitter en vous écoutant, bien sûr, avec quelques amis musiciens dans la musique de Mendelssohn. Thank you. La Concertstück numéro 2, opus 114 pour clarinette, corde basse et piano de Félix Mendelssohn. Et c'était Michel Letiec à la clarinette avec ses amis musiciens. Merci d'écouter France Musique ce matin. Il est 8h15, le week-end approche de plus en plus et vous allez pouvoir découvrir enfin tous les nouveaux rendez-vous thématiques de France Musique, samedi et dimanche, avec notamment un nouveau rendez-vous sulfureux au parfum capiteux de scandale. Ah ça y est, le mot est lâché. Quel scandale ! C'est pas moi qui le dis, c'est le titre de la nouvelle série d'été de Jérémy Rousseau en partenariat avec le numéro juillet-août du magazine Classica. Quel scandale, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le récit, tous les samedis et dimanches de l'été à 10h, des grands scandales de l'histoire de la musique, Nijinsky et la création du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs-Élysées en 1913, Staline découvrant Lady Macbeth en 1936, Maria Callas quittant l'Opéra de Rome en 1958, Arvo Pärt qui affirme sa foi à Tallinn en 1968, lors de la création de Credo, Bayreuth et le Ring de Chéreau-Boulez en 1976, bref, autant d'événements qui ont défrayé la chronique de l'époque, fait scandale et marqué l'histoire. C'est une saga de 16 épisodes que vous propose Jérémy Rousseau, déclinée en plusieurs modules vidéo, que vous pourrez aussi découvrir sur francemusique.fr et sur nos réseaux sociaux. Premier épisode, demain à 10h, consacré à Carmen de Bizet. Scandale lors de la création que le compositeur n'aura pas eu le temps de voir se transformer pour la postérité en son plus grand chef-d'œuvre. Extrait de Carmen avec la garde montante, c'est le chœur des gamins au premier acte, avait chanté par la Lozetta et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la baguette de Michel Plasson. Carmen de Bizet qui sera donc au programme du premier épisode de la nouvelle émission de Jérémy Rousseau de l'été. Quel scandale, à retrouver donc sur France Musique tous les samedis et tous les dimanches à 10h. Il est 8h20, il est temps de faire le point sur le programme, l'affiche des trois concerts du jour. À 16h, concert à l'Elbe Philharmonie de Hambourg, un concert dirigé par Carlos Miguel, un programme d'Efaya, Zimmermann et Ginastera. À 20h, concert La Terre et le Ciel, consacré à Olivier Messiaen et Pascal Dussapin. Ce sera en direct du Festival d'Aix-en-Provence avec la soprano Barbara Hannigan, le pianiste Bertrand Chamaillou et la violoniste Patricia Kopaczynskaya. Et puis à 23h, ne manquez pas Thibaut Gomez et son quintet dans Jazz sur le Vif. Mais puisque notre semaine au Festival d'Aix se termine, on a demandé à notre reporter Louis-Valentin Lopez d'aller recueillir les impressions des musiciens de l'Orchestre Symphonique de Londres et un mot revient sur toutes les lèvres pour qualifier leur venue à Aix. Un miracle. Une résidence de 4 semaines pour l'orchestre, c'est sa première sortie du Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de Covid-19. Première sortie aussi depuis l'entrée en vigueur du Brexit le 31 décembre dernier. Alors forcément, l'ombre du Brexit plane sur les musiciens du LSO, comme on l'appelle dans l'intimité, des musiciens qui en constatent d'ailleurs les premiers effets. Louis-Valentin Lopez.
Sur scène, les musiciens du London Symphony Orchestra rivalisent de virtuosité, même si certains ont dû adapter leurs instruments. C'est l'une des conséquences un peu inattendues du Brexit. Ginette de Kuyper, premier violon.
Les conditions de voyage pour un instrument comme le mien, le violon, sont maintenant les mêmes que si je souhaitais donner des concerts en Chine ou aux États-Unis. L'importation de certaines matières précieuses est maintenant prohibée. J'ai acheté un archet secondaire en matière artificielle. Les 3 autres archets que je possède contiennent ces matières prohibées qui peuvent circuler, mais au prix de paperasse interminable.
Compliqué aussi de passer la douane avec le camion qui transporte les instruments. David Elberman, le chef des deuxièmes violons.
Pour un trajet qui, avant Brexit, était une question de 16 heures sur la route de Londres à Aix, maintenant il faut laisser 2-3 jours, parce qu'on ne sait jamais si ça va être très très long ou rapide avec la douane.
Sans compter la bataille administrative pour décrocher un visa, depuis le 1er janvier, les artistes britanniques doivent en obtenir un pour pouvoir séjourner plus de 30 jours dans l'Union européenne. Et qu'en est-il des musiciens étrangers qui jouent dans l'orchestre ? Olivier Stankiewicz, au bois solo, français, est inquiet.
J'ai eu la chance d'arriver au Royaume-Uni en 2015, donc d'avoir une durée suffisante pour pouvoir avoir maintenant tous les justificatifs qui me permettent de rester de manière confidente sur le territoire anglais. Mais on va devoir recruter des musiciens à l'orchestre. On a toujours recruté de manière internationale. La question de savoir s'ils vont avoir le droit de travailler en Angleterre, comment les faire venir, etc. Tout ça, c'est des problèmes bien réels et qui vont se poser. La pandémie a eu un petit peu ce côté écran de fumée où le Brexit est un petit peu passé en seconde zone, mais les problèmes sont réels et demeurent, et pour le long terme, on espère que ça va s'arranger.
Et plus que les contraintes très concrètes, c'est aussi contre le principe même du Brexit que s'élèvent les membres du LSO.
On a créé une nouvelle frontière, et moi j'ai peur pour les frontières, parce que pour nous ça n'existe pas, parce que notre langage, c'est vraiment un langage international.
Moi j'ai toujours connu une Europe ouverte, depuis le jour où j'ai été faite membre au LSO, et pour moi, c'est un retour en arrière au point de vue. C'est presque, pardonnez-moi l'expression, mais c'est médiéval.
Les musiciens qui exhortent le gouvernement anglais à revenir aux accords qui prévalaient avant le Brexit pour les artistes, pour revivre le plus souvent possible le tonnerre d'applaudissements qui a récompensé leur performance dans le Grand Théâtre de Provence.
Charmer une enfant et l'amener à nous. Au nom de diable, on danse. Et vous, marquez bien la cadence, ménétrier d'enfer, je vous dis un tout.
Un court extrait de la damnation de Faust de Berlioz pour refermer ce reportage signé Louis-Valentin Lopez avec les musiciens de l'Orchestre Symphonique de Londres à Aix-en-Provence. Ici, c'était la voix de Christopher Purves dans le rôle de Méphistophélès avec le Symphonique de Londres sous la baguette de Simon Rattle.
C'est l'été sur France Musique.
Il est 8h26, c'est l'heure de l'été des frères Jacques.
Et ben alors, qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que c'est beau, la photographie ? Les souvenirs sur papier classe électrise.
Aujourd'hui, c'est vendredi et vous êtes de plus en plus nombreux à prendre la route des vacances en ce début de grand week-end de transhumance. Alors, vous avez bien vérifié, j'espère, l'état de vos pneus. Avez-vous fait le plein d'essence? Pensez-vous déjà au plaisir de vous arrêter à mi-chemin sur une aire d'autoroute avec ces sandwichs normalement dégueulasses, mais qui, là, parfumés de vacances, ont une saveur inoubliable. Mais ce qui manque désormais et que les plus anciens ont bien connu, ce sont les pompistes. Les vrais, ceux qui tenaient le bec d'essence dans le réservoir et qui vous briquaient le pare-brise moyennant un petit pourboire. Ces pompistes, les frères Jacques les ont célébrés dans une chanson qui sent bon la route des vacances.
De Martial Carré, N. Montmenier et Hubert de Gex, les pompistes.
À tous les autochtones caméministes, nous dispensons de bons offices, le bec verseur de l'orifice. Frère, un contrôle, voilà notre vice. Tant pis si un coco à côté sa pisse. Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp
Un coup de chiffon sur les carreaux, dans le radiateur, un petit peu d'eau.
Et dans les pneus avant-arrière.
Des coups de
heureux de pouvoir vous servir.
Et toujours avec le sourire.
Voyez, il est à la largeur
de votre bon cœur. C'est pas fini, on voudrait pas vous laisser repartir comme ça sans un regard inquisiteur dans le moteur.
Le niveau d'huile, c'est important.
Et puis nous allons en même temps voir si la batterie épuisée est en danger. C'est nous les pompistes, à tous les automobilistes, nous dispensons nos beaux offices, le déclaireur dans l'orifice. On se prend pour l'émir de service, du coco et du cowet dans le coco pisse, les oiseaux pompes bienfaitrices, c'est nous les pompistes.
Bonjour madame.
Entrez, entrez dans le robot,
il va vous laver votre auto.
En 3 minutes sous les balais,
coucou, ça y est.
Payons votre kilométrage,
on vous conseille un petit graissage.
Allez-vous monter sur le pont de la station. Relaxez-vous dans nos salons, en y dégustant nos poissons, nos pipis, vous m'étudiez pour un bon détour. On se met en quatre pour vous faire oublier le prix du super et avoir le plaisir de vous revoir chez nous. C'est nous les pompistes, à tous les automobilistes, que le voyage soit propice. Partez sous les meilleurs auspices, bourrez d'essence et de pain d'épices. Au revoir, à bientôt, Toto sur la piste, nous serons toujours à votre service. Nous les
Allez, bon voyage et bonnes vacances à ceux qui sont sur la route. C'était Les Pompistes par les frères Jacques. Merci d'être avec nous sur France Musique. Il est 8h30.
C'est l'été sur France Musique.
Bonjour Jean-Louis Grinda.
Bonjour.
Directeur des Corégies d'Orange, metteur en scène, directeur aussi de l'Opéra de Monte Carlo. Et bonjour Roberto Alagna.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin pour parler du grand événement qui se prépare demain soir, samedi, à Orange, aux Corégies d'Orange. C'est, je dis, la fameuse production de Samson et Dalila, Jean-Louis Grinda, parce qu'on l'attendait. On aurait dû l'avoir l'année dernière et puis bon, on sait tous ce qui s'est passé, mais enfin, on va l'avoir cette année.
Oui, c'est un grand plaisir qu'on ait pu porter ce spectacle, un grand plaisir d'avoir Marie-Nicole Lemieux et Roberto Alagna, que je salue, qui est avec nous pour chanter ce magnifique Samson. Je voulais vraiment des artistes avec un français chanté merveilleusement beau et je crois que je suis plus que gâté.
Ah bah oui, parce que alors là vous avez Roberto Alagna, là on n'en parle même pas, hein, c'est impeccable.
Ah si, parlons-en.
Non mais on va en parler avec lui. Marie-Nicole, effectivement Nicolas Cavalier pour donner les autres
Nicolas
noms.
Courjal, bien
Nicolas
sûr.
Courjal aussi, des chanteurs magnifiques pour le français notamment. Yvabel qui dirigera notre orchestre maison, un des deux, l'Orchestre Philharmonique de Radio
magnifique
France.
Magnifique orchestre.
Avec les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, les chœurs de l'Opéra Grand Avignon, le ballet aussi de l'Opéra Grand Avignon. Avant de rentrer dans le spectacle, les chorégies, ça se passe comment? On reprend comme une année normale
Oui, tout à fait. On reprend comme si on ne s'était jamais arrêté, bien évidemment. Alors, certainement, les conditions d'accueil du public sont modifiées, mais elles le sont chez nous, elles le sont partout ailleurs. Passe sanitaire, des jauges. La fin des jauges n'est pas la fin de la distanciation, enfin jusqu'à il y a encore la semaine dernière. Donc, ça a beaucoup perturbé cet accueil du public. Finalement, on a été plus perturbé par les conditions d'accueil du public que par le travail artistique. J'ai été accaparé de façon incroyable par cet aspect-là, mais maintenant, depuis une dizaine de jours, on est à fond dans l'artistique avec Roberto, Marie-Nicole, toute l'équipe et les chœurs, et voilà, on est dedans, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien.
Roberto Alagna, vous devez être heureux, vous aussi, de retrouver ce théâtre antique d'Orange, c'est un endroit que vous aimez beaucoup, je crois, vous êtes fidèle depuis plusieurs
années.
Oui,
bien sûr, c'est un endroit que j'affectionne depuis des années, et je dois dire que j'ai des tas de souvenirs ici à Orange, des bons, des moins bons, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup de souvenirs.
Jean-Louis Grinda, quels sont les temps forts de cette édition 21, avant de parler plus précisément de Samson et Dalila?
Eh ben, ça commence ce soir avec un concert magnifique de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec le concerto de Brahms, Maxime Vengerov, et puis la 5e symphonie de Beethoven, tout ça sous la direction de Miko Frank, un concert populaire, magnifique, emblématique, et puis ensuite, le lendemain, tout de suite, Samson et Dalila, et puis Béjart, le Béjart Ballet Lausanne, et puis Cecilia Bartoli un peu plus tard, un grand concert Verdi, puisque la Scala a dû annuler pour des raisons toujours de Covid, donc elle a annulé sa présence, c'est dommage, mais ça m'a donné l'occasion d'imaginer un programme assez original, je crois, dont fait partie Roberto Alagna, avec Hilda Abdrazakov et Ludovic Tézier, une nuit verdienne. Alors là, ça va être trois grandes voix masculines, peut-être les trois plus belles voix du monde aujourd'hui, pour un programme exceptionnel et pour lequel il y a un véritable engouement du public.
Donc ça, ce sera le 24 juillet à 21h30 avec l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Constantin
Choudovski.
Voilà, Choudovski. Alors, on va revenir à Samson et Dalila, hein, qui nous intéresse plus particulièrement ce matin. Samson, Roberto Alagna, c'est pas une prise de rôle pour vous, vous l'avez déjà chanté plusieurs fois, avec Marie-Nicole d'ailleurs, je crois. Est-ce que c'est un rôle qui est particulièrement difficile?
Ben vous savez, tous les rôles sont difficiles, surtout pour le ténor. Il n'y a jamais de rôle facile pour un ténor, même une phrase devient difficile. Celui-ci est, disons que si on le chante juste une fois, comme ça, le temps d'une représentation avec un repos, etc., ça semble facile. Mais quand on accumule les heures de répétition, etc., il est épuisant, parce que c'est un rôle qui demande beaucoup dans l'émotion, c'est un rôle qui est large dans la tessiture, qui est inconfortable souvent parce que beaucoup de notes de passage, et puis il y a l'intensité du personnage, il y a les chœurs, ici vous imaginez, c'est deux chœurs ensemble, donc ça sert à rien de lutter quand les chœurs chantent avec vous, il faut un peu au contraire lever le pied de la pédale, voilà, donc c'est ça qui est la difficulté, et puis bien sûr le plein air qui fait que ça augmente les difficultés, mais c'est un rôle tellement beau, la musique est tellement magnifique, et je dois dire que Jean-Louis a fait une superbe mise en scène, avec une très belle idée de cet ange qui arrive un peu le messager de Dieu, comme ça, cet enfant ailé avec les ailes lumineuses. Et voilà, donc cette idée m'a séduit tout de suite. Et je dois dire que Jean-Louis vraiment a fait un très beau travail. Il a réussi à garder le mur dans son intégralité, c'est-à-dire sans décor par-dessus. Et donc, tout est fait avec des effets de lumière. Et vraiment un très beau travail de Jean-Louis, je le félicite.
Bah, il sourit là dans le studio, vous êtes content,
Jean-Louis? Je souris, je rougis, je rosis même. Voilà.
Je pâlis à sa vue, comme disait l'autre. Non, mais parce que je dis ça, parce que vous savez, parfois les chanteurs se plaignent souvent des metteurs en scène. Alors là, au moins.
Ah bah, vous savez, je connais des metteurs en scène qui se plaignent des chanteurs aussi. Et je connais des directeurs qui se plaignent de tout. Non, mais pour trêve de plaisanterie, je crois, vous savez, à Orange, on a besoin de travailler entre professionnels. Roberto connaît merveilleusement bien le théâtre antique, ses pièges, ses difficultés, mais également, bon, il a une voix qui est splendide, je le trouve dans une forme, n'écoute pas Roberto, je le trouve dans une forme absolument éblouissante, et puis ce phrasé français qui est unique au monde aujourd'hui, véritablement, et voilà l'ampleur de sa voix, vous savez, moi j'ai toujours, dès que je l'ai entendu dans Samson, c'est la première fois, j'entends Arrêtez aux mes frères, et là j'ai été saisi, c'était vraiment Samson qui chantait, voilà, et j'ai ça toute la soirée, donc je suis un homme très heureux avec Marie-Nicole, qui est également merveilleuse.
Bon, on va écouter.
Mon frère.
Ça y est, on les arrête plus tous les deux. C'est de l'amour ce matin sur France Musique.
Ah ouais.
On va écouter un petit extrait de Samson et Dalila. C'est l'air de Samson au deuxième acte, puisque vous l'aviez enregistré il y a quelques années, Roberto Alagna. C'est l'air Voix ma misère, hélas. Et c'était avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden sous la baguette de Bertrand Billy.
Voix ma misère, hélas. Voix ma détresse. Pitié, Seigneur. Pitié pour ma faiblesse.
Samson, Voix ma misère, au deuxième acte de Samson et Dalila, de Saint-Saëns, la voix de Roberto Alagna, avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, dirigé par Bertrand de Billy. Un petit avant-goût de ce qui vous attend, auditeur de France Musique, demain soir à 21h30 en direct des Corégies d'Orange, Samson et Dalila, sous la direction de Yves Abel, avec Roberto Alagna qui est avec nous ce matin, Marie-Nicole Lemieux, le tout dans une mise en scène signée Jean-Louis Grinda, qui est avec nous aussi. Les répétitions se passent bien, Roberto, avec Marie-Nicole.
Oui, oui, très bien, très bien. On est tous heureux. Vous savez, moi, j'ai un gros défaut, c'est que je chante tout le temps. Jean-Louis peut vous le confirmer. Donc, voilà. Ensuite, ça devient un peu épuisant. Mais je ne sais pas faire autrement parce que je trouve que le travail avance mieux lorsqu'on chante vraiment, lorsqu'on s'implique, parce que bah, tout va plus vite. Mais c'est vrai qu'on a une belle ambiance. On est bien là. On est heureux de revenir. Vous savez, on a quand même un petit public qui est là tous les jours. Hein. Il y a à peu près une centaine ou 200 personnes qui assistent aux répétitions. Donc, on leur fait un petit spectacle pour eux, comme ça, en privé.
Waouh, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le droit d'assister aux répétitions des Corrigis d'Orange? Moi, je savais pas qu'on pouvait venir comme ça.
Ah, ben, il faut être ami des Corrigis. Voilà, faire partie de l'association des amis des Corrigis. Les portes s'ouvrent comme par miracle.
Jean-Louis Grindas, quelle est votre lecture de cet opéra? Donc, on a parlé, Roberto a évoqué cette mise en scène qui préserve le mur, donc une mise en scène vidéo, hein, avec des grandes projections vidéo,
oui,
entre autres.
Écoutez, ne vendons pas la peau de l'ours avant qu'il ne soit présenté aux spectateurs qui l'achèveront bien tout seul. Je crois que... Non, ma vision de l'œuvre, elle est finalement assez simple. Roberto l'a évoqué tout à l'heure. Samson est un homme parmi tant d'autres qui est choisi par un envoyé de Dieu. C'est l'ange en question, ce petit enfant avec ses ailes lumineuses qui arrive, qui apparaît et qui va conduire Samson jusqu'à Dalila. Parce que Dalila est un mal nécessaire à l'accomplissement du destin de Samson et à la chute des Philistins, leur destruction. Ensuite, Dalila, c'est très simple, c'est une femme amoureuse. Elle a eu une aventure trois fois, avec elle l'a connue au sens biblique, plusieurs fois. Mais Samson lui échappe toujours parce qu'elle a un rival, Dalila. Le rival, ce n'est pas une autre femme, c'est la religion, c'est Dieu. Et donc, elle se comporte comme une maîtresse abandonnée. C'est ce qui va déclencher sa fureur, mais jusqu'au bout du spectacle, elle est amoureuse profondément de Samson. Elle est écartelée entre sa jalousie, la fidélité à son peuple, et puis cet amour incommensurable qu'elle porte à un homme admirable et hors catégorie.
Donc pour vous, il n'y a pas de perversion chez Dalila? Parce que parfois, on a l'impression que Saint-Saëns, à travers sa musique, la rend un peu sulfureuse.
Je ne dirais pas que c'est une perversion, je dirais que c'est une ambivalence. Elle est partagée entre deux sentiments, un amour fou qui se transforme en jalousie folle. Comme souvent dans l'opéra, on a besoin d'un mal nécessaire. Alors parfois dans Faust, c'est Méphisto qui est le mal nécessaire à l'accomplissement du destin de Marguerite et de Faust, à son rachat. Et bien là, c'est Dalila qui est un instrument finalement et Dieu qui mène tout ça. Je n'aime pas évacuer le merveilleux dans l'opéra. Quand on écrit un opéra biblique ou un opéra comme les contes d'Hoffmann, par exemple, ou d'autres, ou même Don Giovanni, pour revenir, où il y a l'intervention du Deus Ex Machina, du Commendator, je n'aime pas évacuer ça pour une explication rationnelle. Je crois qu'il faut laisser cette part-là, vous aurez cette part-là.
Roberto Alagna, on le disait tout à l'heure, c'est un rôle qui est assez lourd, hein, qui est très long, et puis émotionnellement très intense. Est-ce que, dans quel état on ressort d'une représentation de Samson et Dalila?
Écoutez,
à part les civets.
Oui, ça c'est certain. Non, mais il y a quelque chose qui nous donne la foi, qui nous fait comprendre qu'il faut toujours garder la foi. Dès qu'on s'éloigne un peu de Dieu, c'est un peu le message de Samson, ben les catastrophes arrivent. Donc, et c'est ce qui lui arrive aussi quand il s'éloigne grâce à la perfidie de Dalila. Tous les malheurs lui arrivent sur lui. Et c'est un peu ce qu'il veut dire dans son peuple. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons vécu dans la pandémie, je trouve qu'il y a un message aussi. Il y a quelque chose de symbolique avec ce Samson qui nous dit de garder la foi et les choses iront mieux, quoi. Donc voilà, il faut garder la foi et peut-être que finalement, si on garde tous la foi, on va finir par terrasser ce vilain virus.
C'est ce que j'ai.
Un extrait d'un des airs les plus célèbres, sans doute, de Samson et Dalila. C'est l'air de Dalila, mon cœur s'ouvre à ta voix. On est toujours au deuxième acte. Et c'est la voix de Marie-Nicole Lemieux, qui était sur ce disque, accompagnée par l'Orchestre National de France, sous la baguette de Fabien Gabel. Je vous rappelle que nous sommes ce matin sur France Musique, en compagnie de Roberto Alagna et de Jean-Louis Grinda, pour évoquer cette belle représentation de Samson et Dalila en direct des Corégies d'Orange, demain soir, sur France Musique. On pourra aussi la voir en images chez nos amis de France 5, ce sera le 16 juillet. Alors là, la soirée va commencer beaucoup plus tôt, ce sera dès 20h50. Il y aura d'abord, c'est une soirée Roberto Alagna sur France 5, le 16 juillet, avec d'abord un documentaire, Roberto Alagna, ma vie est un opéra, et puis ensuite, on pourra découvrir en deuxième partie de soirée, Samson et Dalila aux Corégies d'Orange. Moi, ça m'inspire une question, Roberto Alagna, en quoi votre vie est un opéra ?
Je crois qu'ils ont changé le titre d'ailleurs. Je crois que c'est l'homme à la voix en or ou je sais plus quoi. Donc le titre a été changé.
Mais les deux fonctionnent.
C'est vrai que ma vie est inspirée par l'opéra parce que dans ma vie il y a tous les ingrédients pour faire un opéra avec l'amour, la trahison, la réussite, la chute. On a tout quoi. Et donc voilà, c'est vrai que ma vie voilà le départ simple puis la carrière et puis voilà, il y a tous les ingrédients d'un opéra et c'est vrai que ça continue avec les rebondissements et voilà. Donc c'est vrai, ma vie est un peu un opéra.
Vous allez me dire c'est pratique quand on est chanteur d'opéra. Pour trouver l'inspiration, finalement, vous n'avez qu'à vous inspirer de la vie quotidienne.
Ben, vous savez, moi, c'est ce que je fais toujours. Lorsque j'interprète un personnage, que ce soit Samson, un personnage biblique ou tous les personnages que j'ai interprétés jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de ne pas composer un personnage, mais d'être le personnage lui-même, c'est-à-dire d'être moi, Roberto Alagna, dans la même situation. Alors bien sûr, ensuite, on devient Samson, on devient, qui vous voulez, Ulysse, Arthur, enfin Lancelot, enfin tout qui vous voulez, Cyrano. Mais dans le fond, c'est toujours moi dans la situation du personnage. Voilà, j'aime pas du tout composer vraiment un personnage. Mmh. J'aime être dans cette situation. Et c'est pour ça que même ici, dans cette production, on était parti avec un maquillage, mais qui éloignait un petit peu trop de ce que je suis. J'ai reçu des messages, des gens qui étaient gênés parce qu'ils ne me reconnaissaient plus du tout, etc. Donc il faut que j'essaie de trouver un juste milieu pour que les gens aient quand même le plaisir de me voir dans un rôle. Voilà, donc c'est pas évident à faire, mais on essaie de le faire quand même.
En tout cas, vous avez un point commun avec Jean-Louis Grinda. Alors si sa vie n'est pas un opéra, enfin j'en sais rien, peut-être que la vie de Jean-Louis Grinda est un opéra, mais enfin elle a commencé à l'opéra, vous, puis elle n'en est jamais sortie. Hein.
Ah oui,
vous
oui,
êtes
oui,
né donc, dans un opéra.
Ah oui, j'y suis né, vous savez, le premier chanteur de la famille, c'était 1860, et je suis le seul de la famille de la lignée qui ne chante pas. Dieu merci, donc vous voyez, donc j'ai une petite idée de ce qu'est le monde de l'opéra. Oui, j'y travaille depuis 1981. Un des plus beaux souvenirs professionnels que j'ai, c'est avec lui. C'est ma première saison à l'Opéra de Monte-Carlo. J'ai monté pour lui, parce que j'ai trouvé qu'il fallait le faire, le Cyrano de Bergerac d'Alfano. Et qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, Roberto, c'est un bretteur, c'est Cyrano. Voilà, c'est sans doute le plus grand Cyrano de l'histoire de l'opéra. Et
avec un nez moins long quand même. Hein.
Mais non, là pour le coup, le maquillage...
il était là. Oui.
Il était là, mais c'était formidable. Donc, vous voyez, travailler toute sa vie entouré de gens comme ça, c'est un immense privilège. Moi, je n'ai qu'à dire merci à la vie, je suis très heureux.
Et vous ne chantez jamais, même Roberto n'a pas réussi à vous faire chanter même de la chanson française, parce que vous savez que Roberto, il chante sur scène, mais il chante tout le temps en fait. Même en dehors des représentations, hein, vous chantez à table, vous chantez toute la journée, Roberto, en
c'est
fait.
Vrai.
D'ailleurs, son dernier disque, c'était Alagna le chanteur. Je voudrais qu'on se quitte sur cette note un petit peu amusante, parce que c'est l'été aussi et ça fait du bien, la chanson. Là, pour le coup, c'était un hommage à la chanson française, hein. Alors que vous êtes plutôt chanson sicilienne d'habitude, Roberto.
Ah non, moi je suis de tout, vous savez, moi je n'ai pas de barrière musicale, je suis un mélomane et j'aime toutes les musiques. Pour moi, la musique est une.
Samson, alors lui c'est un héros, mais vous, Roberto Alagna, est-ce que vous diriez que vous êtes ou que vous avez été un mauvais garçon, comme dans la chanson géniale de Georges Vamparis que vous avez enregistrée sur ce disque, avec laquelle je voudrais qu'on se quitte.
On m'a prêté ce surnom de temps en temps, oui c'est vrai, c'est vrai.
Mais un mauvais garçon gentil.
Bah bien sûr, comme dans la chanson, c'est un bon gars en fait.
Exactement. Bah voilà, on va se quitter sur cette chanson. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin sur France Musique. Roberto Alagna, qu'on retrouve donc demain soir dans le rôle de Samson, Samson et Dalila, aux Corégies d'Orange, dans la mise en scène de Jean-Louis Grinda. Merci Jean-Louis Grinda.
Merci.
On va donner d'autres dates, le 24 juillet aussi, toujours aux Corégies, ce récital Nuit Verdienne. Et puis Roberto, ensuite, il a un été et une rentrée bien occupée avec Cavalier derrière Ousticana, ce sera à la fin du mois de juillet, et Pagliacci aux arènes de Vérone, et puis à la fin du mois d'août, à l'Opéra de Berlin, dans Madame Butterfly. Merci à tous les deux. Allez, on se quitte avec cette belle chanson de Georges Vamparis, « C'est un mauvais garçon ».
Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés. Des grands bourgeois qui nagent dans la joie qu'il faut avoir pour être à leur goût. Un grand faux col et un chapeau mou, ça ne fait pas riche une casquette, ça donne le genre malhonnête. Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Toutes les belles dames pleines de perles et diamants, en nous croisant, ont des airs méprisants. Oui, mais demain, peut-être ce soir, dans nos musettes, elles viendront nous voir. Elles guincheront comme des filles, en s'enroulant dans nos quilles. Et nous lirons dans leurs yeux chavirés l'aveu qu'elles n'osent murmurer. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Mais y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon. Qui chauffe, chauffe. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Mais y a pas mieux pour donner grand frisson qu'un mauvais garçon. Mais y'a pas mieux pour donner grand frisson qu'un mauvais garçon.
La voix de Roberto Alagna, c'est un mauvais garçon, chanson de Georges Vamparis sur un texte de Jean Boyer avec ses amis musiciens, Stéphane Chauss à la clarinette, Sylvain Gontard à la trompette et Thomas Curio au banjo. Et c'est ainsi que se referme cette émission. Je rappelle que Roberto Alagna, vous pourrez le retrouver bien sûr en direct demain soir sur France Musique à partir de 21h30 dans Sanson et Dalila. Musique Matin, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour cette semaine. Alors voici la réponse à notre question du jour. Vorine, vers où, à quel cycle de leader appartient ce lied de Schubert? Eh bien, c'est La Belle Meunière, dit Schönemüllerin, un cycle composé en grande partie sur des poèmes de Wilhelm Müller autour de tous les topiques de l'amour romantique, l'espoir, la déception, la tristesse, le voyage, la nature. Bravo à nos trois gagnants du jour. Françoise Donadil de Grenoble, Julien Racimora de Poitiers et Odile Balt de Thionville. Tous les trois, vous recevrez d'ici quelques jours dans votre petite boîte aux lettres un exemplaire du dernier disque du quatuor Voce.
entendu, la journée est loin d'être terminée sur France Musique. Elle ne fait même que commencer. Elle se poursuit dans quelques instants à 9h. Restez à l'écoute avec l'été classique de Jean-Baptiste Urbain qui est juste à côté. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Clément.
Jean-Baptiste, 3 heures encore avant les Caraïbes?
Exactement, oui, vous venez pas avec moi malheureusement, mais
ben non, parce que moi je suis là encore tout le mois de juillet.
Mais je suis là encore la semaine prochaine, figurez-vous.
Mais je vous imagine sur votre serviette comme ça en train de bronzer sur la plage.
Et ben vous, je vous imagine danser des claquettes sur cette musique parce que vous êtes un danseur de claquettes émérite, tout le monde ne le sait pas.
Et oui, on bat pas encore. Et dites-moi, est-ce qu'on a le titre du premier morceau que vous diffusez à 9h?
Oh, c'est du Joseph Haydn, On part en Autriche.
Ah ben ça m'aurait étonné de votre part. Jean-Baptiste Urbain, on reste à l'écoute, on vous retrouve à 9h. Quant à moi, eh bien j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi dès 7h30 sur France Musique avec une jeune musicienne comme invitée, une jeune violoncelliste, Irène Joly, qui a monté son propre festival. Allez, un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagnait ce matin dans Musique Matin. Xavier Ratto avec la liaison, Éric Carrère à la technique, Marion Guillemet à la préparation et Taïsia Froidure à la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.